Bonjour et bienvenue sur Fréquence Diagonale. Alors, Fréquence Diagonale spéciale aujourd'hui, parce que je suis avec le président d'un des grands clubs parisiens, la Tour Blanche. Voilà, c'est Laurent Gagnepain. Bonjour Laurent.
Bonsoir.
Alors, Laurent, on va parler de toi, mais on va parler aussi de la Tour Blanche. Alors, pourquoi j'ai voulu faire une émission spéciale pour la Tour Blanche ? C'est parce que vous avez sorti l'an dernier un livret d'histoire du club de la Tour Blanche sur 70 ans, en fait. Les 70 ans du club que vous avez mis dans un petit livre.
Absolument.
Ouais. Donc ça, ça va être super intéressant. On va en parler, bien sûr. Ça va être un des grands moments de l'émission. Mais on va aussi parler du club. On va parler de toi. On va parler un peu de ce que c'est que la Tour Blanche aujourd'hui. Et puis, on fera donc un petit tour de cette histoire avec, vous allez voir, des anecdotes qui concernent parfois des joueurs bien connus d'aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. On va voir ça. Donc, alors, en attendant, on va démarrer avec toi, Laurent. Alors, Laurent Gagnepain et les échecs, c'est parti comment ?
Alors, en fait, comme tout le monde, beaucoup de monde, j'ai appris à jouer avec mon père à l'âge de 7-8 ans. Mais juste vraiment le déplacement des pièces, guère plus. Hein. Mon père joue un petit peu en club à Bordeaux, mais de façon, je dirais, épisodique. Puis entre 7 et 20 ans, il ne s'est rien passé en fait. Et c'est en travail de fin d'études, donc d'école d'ingénieur dans le sud, à La Ciotat, où j'ai rencontré donc celui qui allait devenir un ami, donc Nenad Serdoche, qui est un bon joueur d'échecs croate. Et en fait, on s'est rencontré dans un café, il était en train de jouer avec un copain, puis voilà, et puis je m'y suis mis. Mais par contre, j'ai mis les pieds dans un club pour la première fois en 2000, à 23 ans, et c'était à la Tour Blanche à Paris. Voilà, donc entre 7 ans et 23 ans, j'ai eu, pour ainsi dire, pas joué. Quelque chose qui est assez drôle, j'ai fait mon premier tournoi au championnat de France à Marseille en 2001, où je suis allé rejoindre mon ami Nenad. Et c'était l'Open C à l'époque, qui de mémoire, c'était les moins de 18 ans, je crois. J'étais 14,99, évidemment. Et j'ai fait une première perf à 16,60.
Ouais.
Avec 6,5 sur 11. Et je jouais vraiment comme un poireau. Enfin, je joue encore comme un poireau, mais c'était vraiment pire. Le développement, l'espace, la sécurité du roi. Je ne connaissais rien à tous ces principes. Je joue parfois B3, parfois F4, parfois B4. Fin. Et puis je me suis dit, quoi, 16-60, alors que j'ai appris à jouer, que j'ai vraiment mis les pieds dans le club il y a un an, dans 2 ans, je vous ai mis, quoi.
Alors, ce qui t'a poussé à rejoindre ce club, c'est cet ami, en fait, c'est ça ? C'est parce que lui-même, il jouait là ?
Voilà, non, lui, il jouait, en fait, à Marseille,
ouais.
Mais il était en Croatie, donc il a dû quitter le pays pendant la guerre des Balkans. Une histoire un peu compliquée. Et en fait, lui, il joue en club,
ouais.
À Kerk, en Croatie. Et c'est lui qui m'a donné l'envie, vraiment, la passion des échecs. Voilà,
d'accord. Donc ouais. La passion, quand même, avait commencé à mûrir, quoi, chez toi,
voilà,
avec cette histoire préalable où vraiment bon, tu l'approchais de loin. Et puis, à un moment donné, c'est devenu irrésistible. Il a fallu que tu ailles dans un club, quoi. Tu voulais vraiment en savoir plus, quoi.
C'est ça. Mmh. C'est l'été 2000, en fait, à La Ciotat, voilà. Mmh. Enfin, toute une histoire personnelle. Et puis, j'ai trouvé du boulot à Paris et en septembre j'ai cherché un club.
Voilà, tu as cherché un club et tu l'as trouvé donc à la Tour Blanche.
Voilà, alors juste pour anecdote avec un peu d'ironie, donc effectivement, ce premier classement à 760, et je me suis dit dans 2 ans, forcément je suis 2000, c'est facile les échecs. Et 15 ans après, je suis 60. Donc, en 15 ans, quoi, j'ai pris 200 points. Donc, écoute, si on fait une émission pour les 85 ans du club, je serais peut-être 2000.
Oui.
Voilà, donc...
Mais ça n'a pas marché, ça.
Ça n'a pas marché. On ne peut pas tout faire. Voilà. Et donc, à l'époque, j'habitais dans le 15e. Ça a été mon premier appart à Paris. Donc, j'étais allé voir au Chess 15. À l'époque, l'ambiance ne m'avait pas plu du tout. C'était assez glauque. Je suis tout. Je suis tombé, je pense, une mauvaise soirée où il y avait des gens pas très sympas. Voilà, j'ai passé beaucoup d'amitié pour les dirigeants actuels. Je ne sais pas si c'était le même à l'époque, mais disons que l'ambiance m'a vraiment déplu. Mmh. Et donc, je suis allé pousser la porte de la Tour Blanche, qui est à l'opposé de Paris, d'ailleurs, c'est marrant, mais où j'ai trouvé vraiment voilà, un club où il y avait ce que je cherchais avant tout, une bonne ambiance.
Une bonne ambiance, donc avec voilà, une bonne affinité avec les autres joueurs. Alors, ton histoire ne s'arrête pas là en tant que joueur, parce que alors, tu vas gravir les échelons administratifs, j'ai envie de dire, à défaut des échelons Elo. Hein, puisque...
Absolument.
C'est-à-dire que tu vas devenir à un moment donné membre du bureau, puis président du club, c'est ça?
Voilà, alors en fait, donc, je suis arrivé à Tour Blanche en septembre 2000. En septembre 2000, la Tour Blanche, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. En septembre 2000, quand j'arrive, on est 20. Il n'y avait donc aucune femme, il n'y avait pas d'enfants. C'était, je dirais, un petit club tel qu'on peut en trouver énormément en France, hein, mais avec une excellente ambiance. Donc ça, c'est important. Et donc en 2001, un peu par hasard, je reprends la revue du club. Et je deviens donc secrétaire parce qu'il n'y avait pas vraiment de candidat pour le poste, donc moi je dis banco, j'avais un peu de temps. Et j'ai été donc secrétaire de 2001 à 2004 avant que le président de l'époque, Marco Tempestini, qui avait été président dans une vie antérieure de l'échiquier Nostradamus à Salon de Provence, ouais. Donc que Marc ne reparte en province en 2004 et donc ne me passe le flambeau.
D'accord. Voilà. Donc d'accord, donc, et tu deviens après président en quelle année ?
En 2004.
En 2004. Alors, donc maintenant en plus tu es président, donc tu as une belle vue de ce que c'est la Tour Blanche. Alors avant qu'on aborde cette historique avec ce livret qui est sorti, avec, vous allez voir une histoire longue et puis vraiment intéressante. Tu vas nous parler de la Tour Blanche aujourd'hui. Alors la Tour Blanche aujourd'hui, c'est quoi? Il y a combien de joueurs? Il y a aussi un tournoi annuel qui prend de l'importance, qui est vraiment superbement organisé dans un lieu dont tu vas nous parler aussi, qui est vraiment un lieu exceptionnel. Voilà, donc il y a de belles choses. Alors il y a quoi? Alors, c'est quoi la Tour Blanche? Alors si on est loin, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas Paris.
Bien sûr. Alors la Tour Blanche, en fait, c'est un club de l'Est parisien. C'est un club qui est situé au Père Lachaise, dans le 20e arrondissement, non loin d'ailleurs de nos collègues du Canal Saint-Martin, que je vais en profiter pour saluer, vu que c'est des gens avec qui on s'entend vraiment très bien. C'est un club qui aujourd'hui, alors, en licencié A, on est donc on est 115, et en adhérent, on tourne entre 160 et 180.
Voilà, donc c'est déjà un club tout à fait respectable,
hein, voilà, en termes de taille. Et ouais. C'est des licences A, de façon polémique, je dirais des réelles licences A, parce qu'avec les jeunes, on fait à peu près ce qu'on veut. Hein. Mm. C'est une licence A qui coûte pas très cher pour les jeunes. Quand je parle de licencié à la Tour Blanche, c'est donc des gens qui jouent dans nos équipes, qui viennent au club. Hein.
Ouais.
C'est des vrais licenciés, voilà.
Oh oui, parce qu'après, il y a les licenciés de passage.
Voilà, on peut dire ça.
Ouais. Et donc, un tournoi annuel, alors, maintenant hein.
Un tournoi annuel, effectivement, qui se déroule donc dans la magnifique salle des fêtes de la mairie du 20e,
ouais.
Qui est une salle avec des lustres, des arts de la République, hein, des tableaux dont certains sociétés de grand nom, un parquet magnifique, et c'est un tournoi qui, effectivement, aujourd'hui, on est sur le point de passer, en fait, les 200 participants. Mmh. Voilà, ce qui veut en faire un des plus grands tournois rapides en France.
Oui, c'est un des plus grands tournois rapides en France, et puis tu peux citer quand même les grands joueurs qui ont participé à ce tournoi, parce qu'il y en a un paquet.
Bien sûr, tous les ans, effectivement, il y a Tchekachev, il y a... Trégoubov qui a joué. C'est pas toujours d'ailleurs les plus forts qui gagnent, hein, puisque en 2015 on a eu une surprise et il y a même un GMI qui a terminé 7e, donc c'est dire le niveau. Ouais. Et puis c'est effectivement un tournoi qui se développe tous les ans et on pense qu'on va dépasser les 200 joueurs là cette année.
Donc là voilà. Le problème c'est que la mairie du 20e tiendra pas. Il va falloir trouver.
Alors, on a une deuxième salle parce que à côté de la salle des fêtes, il y a la salle du conseil.
Ouais.
Et on l'avait déjà utilisée il y a quelques années. À l'époque, on faisait deux tournois, un tournoi jeune de la salle du conseil, donc la petite salle, et une autre tournoi principale donc qu'on connaît aujourd'hui, qui est la réunion des deux tournois. Et donc, on a encore la possibilité d'accueillir une cinquantaine de joueurs, mais dans une seconde salle, avec des petites difficultés logistiques qu'on connaît, un arbitre dédié, etc. Mais bon, ça, c'est des problèmes logistiques. Et comme on disait un ancien président de la logistique, un ancien président de la République française, la logistique suivra.
Oui,
voilà.
La logistique suivra, il faudra bien, il faudra bien. Donc du coup, bon, c'est un club dynamique, hein, parce qu'organiser un tournoi, c'est pas rien. Les clubs qui en organisent le savent, hein, c'est quand même pas pareil de tenir un tournoi annuel que de pas en tenir. Alors, il y a aussi, bien sûr, la participation. Tu as parlé un petit peu du jeu par équipe. Alors, pour donner quand même une petite indication, la Tour Blanche joue à quel niveau aujourd'hui?
Alors, nous avons, au total, nous engageons, plus de 25 équipes chaque année. L'équipe première, c'est la Nationale 2, qui a terminé sur la troisième place du podium en 2014. C'est un résultat magnifique pour un club amateur, en sachant donc qu'on ne paye personne. Voilà. On n'a pas de... Enfin, c'est pas un jugement de valeur. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, que ceux qui le font, c'est pas bien. Je dis juste qu'à la Tour Blanche, on a fait un choix, un choix philosophique. On ne paie pas de mercenaires pour venir faire une pige à droite, à gauche, voilà. Tant d'euros le match. Voilà, donc il n'y a que des joueurs qui jouent pour le plaisir, qui jouent avec nous, parce qu'ils ont envie de jouer avec nous. Mmh. Voilà. Ensuite, nous avons donc deux équipes National 3, trois équipes National 4, et chaque année, une ou deux équipes National 5. Ça, c'est pour les nationales. La spécificité de l'Île-de-France, ensuite, les critériums qui sont les compétitions par équipe de 4 joueurs par niveau, nous en engageons entre 4 et 6 chaque année. Nous engageons ensuite une équipe en nationale de féminine tous les ans, vu que nous accordons beaucoup d'importance aux féminines, mais hélas, malgré nos efforts, et comme dans beaucoup de clubs, on n'en a pas assez, parce qu'on trouve que les échecs, ça devrait être mixte, et il y a trop de barbus. Hein.
Trop de barbus.
Voilà, donc c'est parti, mais oui. Voilà, et puis ensuite, on a des équipes en Coupe de France. En 2014, d'ailleurs, on arrive en quart de finale, après avoir éliminé le champion de France en titre, et tenant donc du titre Clichy. Hein, c'est un peu comme si l'équipe de 1-2.
Ouais, c'est un exploit voilà. De France, quoi, ça. Éliminer Clichy, multiple champion de France, qui a été champion d'Europe aussi. Ça, on l'a vu avec Jean-Claude Moins sur le podcast, il nous en avait parlé. Vous avez éliminé Clichy en Coupe de France, donc ça, c'est quand même un trophée, quoi.
Voilà, ça, c'est un grand moment. Et d'ailleurs, on en reparlera peut-être, mais. Donc, la Tour Blanche, c'est. T'es déjà parvenu en quart de finale de la Coupe de France.
On y reviendra tout à l'heure.
Voilà.
Quand on parlera de l'histoire du jeu, bien sûr. Alors, dernier point, peut-être avant de faire une pause, et après on va parler donc de cette fameuse histoire, 70 ans d'histoire à Tour Blanche, avec des anecdotes amusantes qu'on a pu relever. Je vais te poser la question aussi de la formation des jeunes. Est-ce que c'est un club qui forme aussi? Est-ce qu'il y a des formateurs? Ça se passe où? Vous intervenez peut-être dans des écoles ou il y a des mercredis qui sont ouverts? Voilà. Enfin, comment ça fonctionne?
Absolument. Alors, avant de faire un point sur le côté formation, je voudrais rendre hommage quand même à toute l'équipe qui m'entoure, parce qu'on interviewe toujours le président, c'est normal, mais il faut pas oublier qu'un président tout seul, ça fait pas grand chose. Donc je voudrais rendre hommage à l'équipe de bénévoles donc qui m'entoure, qui est fantastique et qui fait un travail vraiment extraordinaire à mes côtés, et c'est grâce à eux donc qu'on en est là aujourd'hui. Alors la formation, oui, évidemment, formation des jeunes, formation adulte. L'école d'échecs de la Tour Blanche, c'est à la fois une fierté et quelque part un petit regret, puisqu'en fait on plafonne à 20 joueurs et qu'on n'arrive pas vraiment à la faire décoller. On a un peu de mal hein, par rapport à d'autres clubs à Paris, il faut le dire, qui sortent mieux la épingle du jeu. C'est peut-être dû au quartier, c'est peut-être dû à d'autres choses. Toujours est-il qu'on a donc une vingtaine de jeunes, on a une équipe quand même en national 3 jeunes, voilà, avec des formateurs de la plus grande qualité, des cours le mercredi après-midi et le samedi matin, et nous développons les échecs dans les collèges. Voilà, nous sommes aidés donc par le Centre national pour le développement du sport, pardon, pour faire des actions dans des collèges qui sont en réseau d'éducation prioritaire, notamment dans le 20e.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, une formation adulte, évidemment, avec quelque chose qui est très rare en France, des cours pour adultes débutants, puisque les échecs ne sont pas forcément toujours très hospitaliers. Si vous arrivez, que vous avez 50 ans et que vous dites bonjour, j'ai envie d'apprendre à jouer aux échecs, ben, 8 fois sur 10, on vous fait comprendre que
c'est trop tard.
C'est trop tard. On a autre chose à faire et que voilà.
Ce qui n'est pas bien, parce qu'on doit pouvoir apprendre à tous les âges.
Et ben voilà, tu vas au tennis, tu vas apprendre à jouer au tennis, on va très bien te recevoir à tout âge. En sport court, c'est pareil, etc. Il n'y a qu'aux échecs, je crois, où il y a vraiment une sorte de... Bon, on s'en fiche, il y a 50 ans, on n'en fera jamais rien, voilà. Donc nous, on a mis en place des cours débutants il y a 3-4 ans, qui marchent plus ou moins bien. C'est quand même pas facile, mais on les maintient malgré tout. Et puis ensuite, on a des cours qui marchent très 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 bien, voire trop bien, puisqu'on doit en dédoubler certains, donc des cours pour la préparation à la compétition, dont nous avons 4 niveaux de cours, de 1200 à 2200, avec donc les cours élites pour les joueurs à plus de 2000 qui sont donnés donc par Olivier René, qui est connu, ancien secondant de Karpov, etc.
Ah oui, qui est une légende du jeu d'échecs français, oui, Olivier
René.
Un très grand monsieur, un des tout premiers grands maîtres français, et comme tu l'as dit, secondant de Karpov au championnat du monde. Et qui a fait partie de l'équipe de France, bien entendu, et qui est un formateur de top niveau. Donc vous avez le meilleur, là.
Voilà, on a Olivier, on a ensuite Gilbert Grimbert, qui est aussi une figure, je trouve, des échecs parisiens. Très très beau professeur, avec une culture échiquaine aussi très étendue, faisant un style très différent. Nous avons des cours avec Albin Dalborgo, qui a gagné d'ailleurs l'Open A du championnat de Paris il y a 3-4 ans, voilà, qui a entraîné l'équipe des jeunes de Belgique et qui est aussi un beau formateur, et Serge Kordman pour nos deux premiers niveaux de cours. Voilà. Donc en fait, à la Tour Blanche, que l'on soit débutant ou 2000 ou 2200, on trouve un cours adapté.
D'accord. Ben, je crois que tu as. Alors pour terminer, tu as fait le tour. Pour terminer ce panorama instantané. Après, on va passer dans la deuxième partie à l'histoire du club. Un gros morceau pour l'émission. Il y a un site aussi, un site internet. Hein. Tu
oui.
peux nous rappeler l'adresse de ce site alors hein.
Absolument. www.tourblanche.asso.fr.
Voilà. Donc c'est pas difficile. Voilà. Il y a beaucoup d'informations. Il y a des photos. Et on peut savoir ce qui se passe en consultant ce site.
Voilà, absolument.
Notamment le prochain tournoi rapide, l'an prochain.
On n'a pas encore défini la date puisqu'on attend le calendrier de la FFE, mais je crois l'avoir vu tomber dans mes mails il y a une heure ou deux, donc on va bientôt fixer la date.
Bientôt, voilà. Ça sera fixé.
Mais ce sera en novembre, comme d'habitude.
Voilà, ça traîne pas, la Tour Blanche. Très bien. Alors, si tu veux bien, on va faire une pause musicale et puis on se retrouve juste après donc pour attaquer le gros morceau hein, de l'émission, c'est-à-dire l'historique, 70 ans d'existence, au moins 70 ans, parce qu'on va en parler plus, peut-être, il y a peut-être encore plus avant, au moins 70 ans d'existence de la Tour Blanche, avec ce livret donc, que les joueurs du club peuvent se procurer, et puis bien sûr ceux qui sont aussi intéressés, même s'ils ne sont pas du club, pour voir l'histoire, parce que ça fait partie de l'histoire de France, des échecs du coup, avec des anecdotes... super intéressante. On va parler d'une grande joueuse notamment. Voilà, petite anecdote sur une grande joueuse actuelle en France. À tout de suite après la pause musicale sur Fréquence Diagonale.
cities made of steel and stone babies. Call them home. Crawling on the ground beehive, busy buzzing sound and hills, hailing to the queen empires, towering over trees.
Retour hein, dans Fréquence Diagonale, toujours avec Laurent Gagnepain, La Tour Blanche, 70 ans La Tour Blanche. Alors, sortie de ce livret, on va parler maintenant donc de cette histoire du club, après la présentation qu'on a pu faire dans la première partie. Des échecs et des hommes, Tour Blanche, 1945-2015. Donc déjà 70 ans, c'est pas mal.
C'est pas mal, effectivement. Alors, pourquoi ce livre ? C'est vrai que c'était un défi, puisque tous ceux qui nous écoutent, dont beaucoup de bénévoles qui travaillent beaucoup pour leur club, pour leur comité, pour leur ligue ou pour la fédération, savent que c'est déjà compliqué de gérer le présent, qu'il faut savoir anticiper le futur, évidemment, hein, gouverner, c'est prévoir. Alors, se plonger dans le passé, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Et ce n'est pas illogique, hein. On a tellement à gérer entre la vie privée, vie familiale, donc le travail. Se replonger dans l'histoire en fait, du club, ce n'est pas évident. C'est pas évident, alors j'ai souhaité que l'on fasse au travail une plus de 70 ans, parce que je crois que pour savoir en fait où l'on va, il est souvent utile de savoir d'où l'on vient. Et alors, on est parti de zéro. On est parti de zéro parce que quand j'ai repris les archives du club en 2004, il y avait un carton avec 15-20 feuilles, voilà, mais dont un petit historique rédigé par l'ancien président Raoul Fortin, qui faisait remonter l'origine du club à 1945. Et puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Bon, personne n'en parlait, que personne n'était trop au courant. Moi, j'étais pas sûr de la chose, parce que finalement, rien n'était attesté, que c'était juste un petit compte-rendu qu'on tapait à la machine à l'époque. Le traitement de texte, ça n'existait pas encore. Et je me suis dit, voilà, on va arriver aux 70 ans. Ce serait quand même une date fondamentale.
Voilà.
Ouais. Une belle dame, un bel âge pour une dame. Ouais. Et j'ai eu la chance d'être avec Florent Lécorché, qui était dans le club et qui maintenant joue à Melun, je crois, qui est un très bon camarade, qui est bibliothécaire et qui est un passionné, en fait, des anciennes revues, et qui a toute une collection de revues échiquéennes à partir de 1930. Donc il a tous les numéros de l'Échiquier de Paris, qui est une revue qui était bimestrielle, qui a été éditée entre 45 et 51, je crois. Puis ensuite, il a tous les Europe Échecs, etc. Voilà. Et on avait une mine d'or, et je lui ai dit, Florent, est-ce que tu es d'accord pour aller fouiller et rechercher des infos, parce que je souhaitais donc faire un livre qui soit vraiment assis sur des bases solides. On n'écrit pas que ça a été fondé en 45, si on n'en sait rien, voilà, il faut des preuves. Et si on n'avait pas trouvé, on aurait fait différemment. Et en fait, on a trouvé effectivement la première mention du club en 46, en janvier 46, dans l'Échiquier de Paris, avec mention du club qui était à l'époque, qui était rue des Cendriers, voilà, qui est une rue du 20e arrondissement, au 16 rue des Cendriers. Et le côté père, c'est amusant, j'y suis passé donc peu de temps après, et c'est un quartier qui a été entièrement rasé et reconstruit dans les années 70 et 80, Belleville, tout ça, c'était démoli, c'était reconstruit donc plus ou moins bien. Et ce qui est amusant, c'est que le côté sud de la rue des Cendriers, donc là où était la Tour Blanche numéro 7, c'est la seule portion de rue de tout le quartier qui en fait est encore de l'époque. C'est très amusant, quoi. Tout le reste, c'est des bars de 5, 6, 7, 8, 10 ou 15 étages. Et ici, c'est toujours les immeubles de l'époque. Je pense que c'était un café à l'époque. Voilà. Mais on n'en sait rien. Et ce qui nous fait dire que le club est peut-être plus ancien que 45, c'est qu'en fait, l'Échiquier de Paris ne dit pas qu'un nouveau club à Paris, au 16 rue des Cendriers, non. Il dit la Tour Blanche est maintenant au 16 rue des Cendriers. Donc,
donc avant, il était ailleurs.
Il était peut-être ailleurs, mais encore une fois, on n'a rien trouvé. Donc aujourd'hui, c'est 45, on va dire.
Ouais. D'accord. Voilà. Alors, dans cette histoire, il y a alors 70 ans d'histoire, on ne va pas faire le résumé, il y a le livre, donc on peut se le procurer, mais enfin, on va quand même raconter quelques points qui nous intéressent. Alors, il y a des anecdotes intéressantes. Alors, notamment, il y en a une qui va sans doute intéresser particulièrement les lecteurs, et qui concerne une grande joueuse française.
Oui.
Voilà. Et alors, tu vas nous raconter ça. D'abord, c'est... Alors, quelle est cette anecdote? Alors, est-ce que tu peux la raconter?
Alors oui, c'est Jacques Baudrier, qui raconte cela. Jacques Baudrier est un joueur donc de la Tour Blanche qui a joué pendant 20 ans, qui est un joueur brillant puisqu'il est arrivé sans travailler jusqu'à 2300, voilà. Et puis à un moment, il a fait le choix entre les échecs et la politique parce qu'il pouvait pas tout faire. Et puis, il est toujours dans les combinaisons et les tactiques aujourd'hui, mais il fait de la politique puisqu'il est d'ailleurs, il a bien mené sa barque, il est conseiller de Paris, voilà, après avoir été maire adjoint à la Moquerie du XXe. Et il raconte en fait toute la période que lui a connue entre, je vérifie pour le principe, entre 73 et 92. Et donc il raconte à l'époque qu'il donnait des cours à ses collègues, parce que c'était donc le meilleur. Il a fait un bouquin d'ailleurs à l'époque avec Christophe Bouton, autre personnage connu.
Du monde des chefs, il faut expliquer voilà. Pour les auditeurs, Christophe Bouton qui était journaliste à Libération et qui faisait déjà des articles, les articles échiquiens dans Libération, les gros articles disons, c'était Christophe Bouton. Alors Jean-Pierre Mercier s'occupait de la rubrique échecs, mais c'est Christophe Bouton qui écrivait plutôt les articles importants des championnats du monde. Et il s'est retrouvé aussi ensuite, il a été rédacteur en chef d'Europe Échecs.
Absolument. Mmh. Voilà. Et donc, ils ont fait un bouquin avec Jacques Baudrier qui s'appelle L'ABC de la stratégie. Et donc, il raconte qu'il donnait des cours qui avaient lieu chez les uns chez les autres, dont un cours qui avait lieu donc, chez Joël Sebag. Joël Sebag, qui est le père de Marie. Et ils étaient un petit peu agacés parce qu'il y avait un bébé dans la pièce à côté. Qui gênaient en permanence et qui les empêchaient de travailler les échecs. Et ils étaient bien sûr très loin de se douter que ce bébé allait devenir la plus grande joueuse d'échecs de tous les temps, Marie Sebag, grande joueuse mondiale.
La plus grande joueuse d'échecs de tous les temps, la plus grande joueuse d'échecs française de tous les temps.
Oui, française, bien sûr.
C'est déjà très très bien.
Voilà, donc ça c'était...
Donc ça c'est une anecdote, ça veut dire que Joël, le père de Marie Sebag, était à la Tour Blanche.
Absolument.
Et que donc il y a eu, donc, alors je ne sais plus si c'était un match ou des cours, tu me dis c'est des cours, donc, chez Joël, et que pendant ce temps, Marie donc, était au berceau, en train de réclamer son biberon. Quoi.
Voilà.
Voilà, en gros c'est ça. Et gêner le déroulement des parties. Ce qui, pour une future championne, est presque un coup illégal. Hein. Je dirais que l'arbitre aurait pu la sanctionner.
Exact.
Alors ça, c'est une première anecdote. Donc c'est marrant parce que voilà, donc vous avez une petite histoire avec Marie Sebag. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Et puis alors, donc il y en a d'autres. Alors il y en a une qui m'a plu particulièrement. Après, il y en a une très longue que tu vas nous raconter plus en détail, je pense. Ça concerne un joueur lituanien. Mais il y en a une qui te concerne, toi. Qui moi m'a fait rire quand je l'ai vu, ça m'a plu parce que c'est le genre d'humour qui me plaît, voilà, c'est un humour potache je dirais, c'est un humour d'étudiant, mais voilà, ça me plaît bien. Et alors tu vas le raconter, je vais rien dire, voilà, tu me racontes donc tu aimais bien jouer de façon particulière. Hein.
Oui effectivement, c'est au tournoi de Vikensin qui est un
des... Quelle année ça donc?
Ça c'était il y a 12 ou 3 ans je pense.
Ouais.
Vikensi, donc c'est un des plus grands tournois d'échecs au monde, un des plus forts, un des plus beaux et sûrement un des plus anciens, puisque je crois que le tournoi a dû fêter ses 85 ans. Donc c'est en janvier, hein, sa seconde quinzaine. C'est un tournoi qui est sur la mer du Nord, près d'Amsterdam, donc vous voyez un peu les conditions... climatique qu'il peut régner. Et c'est un tournoi qui a la particularité qu'en fait, les grands maîtres et enfin, les meilleurs joueurs du monde jouent à quelques mètres des amateurs, plus ou moins éclairés, puisque en fait, pas tout le monde est dans la même salle. Et il y a même les derniers groupes qui jouent au célèbre Café de Zone, donc dans une arrière-salle un petit peu magique. Voilà, et je ne sais plus pourquoi, un jour, j'ai fait un pari avec un copain, donc c'est quand même assez classe. Hein. Le tournoi, c'est pas, je dirais, un gymnase avec trois tapis, et il fait quand même un grand standing.
Oui, il y a des stars sur la scène. Hein,
voilà.
Juste et, à côté de toi ou pas loin.
Voilà, il y a des teintures partout, c'est vraiment magnifique, il y a des gros sponsors, un Tata aujourd'hui. Et j'ai fait un pari, alors, je ne sais plus pourquoi, sûrement une fin de soirée arrosée, de jouer une partie, alors, et de la gagner, en pyjama et en charentaise. Et donc, un pari, c'est un pari. Et je suis arrivé, donc un jour, c'était la ronde 7, je crois, j'avais les blancs, et je suis arrivé à la salle de jeu, donc en pyjama et charentaise, et j'ai traversé toute la salle. Et en fait, ce qui m'a surpris et un peu déçu, c'est que tout le monde s'en fout. Finalement, personne ne m'a fait la moindre remarque. Alors, les habitants du Pays Basque sont quand même très très tolérants, ils sont connus pour ça. Oui. Je pense que beaucoup l'ont vu, mais que personne n'a rien dit. Et j'étais un peu déçu, donc j'ai salué mon adversaire. Donc on a joué une partie. J'allais prendre un café en pyjama, etc. Que je passais à la salle, je saluais les arbitres. En pyjama et charentaise. On les connaît bien, les arbitres, puisqu'on joue depuis. Depuis 8 ans tous les temps, donc on a bien sympathisé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chaque année, ça, c'est un petit peu un rite hein, que vous avez instauré. Apparemment, il y a quelques joueurs de la Tour Blanc qui vont jouer avec Anze, le grand tour des Pays-Bas.
Hein. On est entre 5 et 8. Et voilà. Donc, on loue deux maisons à 300 mètres de la salle de jeu. C'est extrêmement sympathique. Et on fait une crise de temps assez épique. Et on sort. Et comme souvent, les joueurs d'échecs, ils se retrouvent dehors en train de fumer.
Ouais.
Je me rappelle, il neigeait, il y avait du vent. Et...
Toi, t'étais en pyjama et charentaise.
Voilà, pyjama et charentaise. Et donc, mon adversaire me donne du feu. Et là, je me suis dit, il va quand même
faire
une bonne remarque. Lui, était en après-ski, en impact, etc. Rien. Ils s'en foutaient. Je ne suis même pas sûr qu'il ait remarqué quoi que ce soit. Et donc, il m'a parlé de crise de temps. On a fumé une clope. On est allé se rasseoir. Il m'a atomisé en finale. Et j'ai perdu mon pari puisque j'ai joué en pyjama. Mais il fallait que je gagne.
Il fallait aussi gagner.
Donc, le pyjama, c'est facile. Gagner, c'est autre chose.
C'est autre chose. Donc, c'est marrant. Et donc, oui, à la limite, c'est presque encore plus drôle le fait que personne t'ait fait de remarques particulières sur le. Alors, moi, ça m'a fait penser ton anecdote d'ailleurs. Au film Le Tournoi, où je sais pas si tu l'as vu,
oui,
où on voit notre ami le grand maître Libiseski qui joue aussi dans une tenue complètement. Alors il joue parfois il est en lapin, mais pendant le tournoi il arrive, il joue tout en bleu, il était tout à. Tout en bleu.
C'est exact.
Il venait faire partie en bleu. Bon, voilà, c'était assez marrant. Donc voilà, surtout quand on sait que c'est un grand maître et que bon, il joue un joueur moyen dans le tournoi, alors qu'en fait c'est sans doute le meilleur du film, mais bon.
C'est sûr.
Enfin, c'est quand même amusant. Alors, donc ça, c'est pour cette anecdote-là. Alors, il y a deux autres anecdotes que je voudrais qu'on commente avec toi. Alors, il y en a une. Ça concerne donc une histoire avec un joueur de la Tour Blanche et un disque.
Oui.
Alors,
effectivement, c'est Dominique Moimeau, qui est un joueur.
Quelle année à peu près ça, cette histoire ?
Alors ça, c'était dans le milieu des années 2000, 2005, 2006.
Donc encore assez récent.
Voilà. Donc Dominique Moimeau, c'est un joueur du club qui a été secrétaire, qui a été capitaine d'équipe, qui a donné des cours, qui a fait surtout une revue extraordinaire pendant une dizaine d'années, qui s'appelait notamment Le Dindon, voilà, où il décernait les burnes d'or. Les burnes d'or, en fait, c'était les plus belles gaffes en national. Et il fallait réellement se battre, je te vois sourire, même rire, pour figurer dans le palmarès, parce que c'est pas le tout de gaffer, c'est à la portée d'une première pignou venue. Encore faut-il le faire avec style. Et donc, seuls les gaffes qui venaient de très loin, qui avaient du style, étaient récompensés. Et on tirait une certaine fierté, c'est vrai, avoir été décerné burne d'or. Donc, Dominique faisait une revue très très leste, mais l'anecdote n'a rien à voir avec ça. En fait, c'est Stéphane, un joueur du club, qui un jour fouille chez un bouquiniste, un marchand de disques, donc de vinyle, dans une boutique de la rive gauche, et qui tombe sur une jaquette extraordinaire où il reconnaît donc Dominique Moimeau entièrement nu, en train de courir dans un champ. Et alors, je pense que les auditeurs vont se dire, entre un qui joue en pyjama et l'autre qui court nu dans les champs, on va peut-être pas aller jouer à la Tour Blanche, mais si, il faut venir, c'est très sympa. Et en fait, donc Dominique avait fait de la musique dans les années 70, 80, 90. Mm-hmm. Et il avait bien sorti un 33 tours avec son groupe. Et il était en jaquette, nu, en train de courir dans un champ. Voilà.
Donc c'était bien lui, c'était bien son disque. Ça datait des années 70.
Voilà.
Et c'est un joueur de club dans les années 2000 qui a découvert le poteau rose.
C'est ça.
Et qui s'est acheté le disque, je crois, c'est ça. Et qui l'a mis en évidence sur sa cheminée.
Je ne sais pas s'il est encore, mais en tout cas, voilà.
D'accord. Ça, c'est une anecdote marrante. Alors, il y en a une autre qui est peut-être un peu plus ancienne. C'est l'histoire d'un joueur du club lituanien qui a eu un parcours tout à fait extraordinaire.
Oui, alors effectivement, c'est Jacques Baudrier qui raconte ça. Dès les années 70, il joue en Critérium avec un gars qui était une force de nature, qui avait déjà un certain âge, mais qui avait des mains comme des battoirs, une carrure
imposante.
D'athlète, voilà, ouais. Imposante, et qui parlait une dizaine de langues, et qui avait des crises de temps terribles, et qui écrasait les pendules avec ses mains. Il aurait même cassé une garde, de façon véridique.
Une pendule garde, hein, les fameuses pendules garde, il faut expliquer pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, c'est notamment les jeunes, s'ils nous écoutent toujours. Ces pendules garde, c'est des pendules que fabriquaient les pays de l'Est à l'époque. C'est-à-dire, c'est des pendules mécaniques, assez grosses, et qui étaient un peu le standard. Tout le monde utilisait ça, parce que c'était les seuls qui en produisaient, tout simplement. Les pendules électroniques sont arrivées beaucoup plus tard, en fait. Hein, voilà. Donc, c'est resté, il y en a toujours, d'ailleurs. Il y a toujours des pendules garde qui continuent d'être utilisées.
Et l'avantage des gardes, effectivement, c'est qu'on n'a pas toutes les agaceries liées au joueur d'à côté qui appuie sur ta pendule quand on se trompe de pendule,
oui.
Le décompte des coups, etc. Bon, voilà. Le rajout des 30 secondes, c'est très, très agréable, mais c'est vrai que par contre... jeu des vies. Et donc, il ponctuait donc, chaque coup en crise de temps de jurons absolument monstrueux en lituanien, en yiddish, en polonais, etc. Et ce qui décontenançait très fortement les adversaires. Et Jacques a découvert donc après que Grigori Ridvas avait eu une histoire extraordinaire, vu qu'il était lituanien. Et il a été interné 3 fois dans les camps de la mort, donc... par les nazis, il était juif, il a réussi à le cacher, en fait il a été déporté pour résistance, pour appartenance au parti communiste, mais il a réussi à cacher donc tout le temps qu'il était juif, il s'est évadé 3 fois, et il est arrivé en France, où il a dû en fait revêtir l'uniforme nazi, vu qu'il parlait couramment allemand, c'était la seule solution pour lui à un moment, c'était ça, où... se prend une balle dans la tête, donc il a dû, alors je vous passe les détails, mais il a écrit un livre donc qui s'appelle Grégoire de Grigori Ridvas, qu'on peut trouver aujourd'hui sur internet très facilement en occasion, et il a profité de la première occasion pour rejoindre la résistance française avec beaucoup de renseignements, et il a fini capitaine de l'armée française, et c'est lui qui a libéré le Puy, donc à la tête de la résistance, je parle du Puy en Velay, donc en 44. Voilà. Voilà, donc une histoire effectivement qui est extraordinaire, et dans les premières pages de son livre, il parle des échecs, effectivement. Il décrit une scène d'échecs dans un camp, etc. Voilà,
donc un gros parcours en changeant d'uniforme plusieurs fois pour s'en sortir, et donc un joueur d'échecs qui est donc joué pour la Taupe Blanche, quoi.
Absolument.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments sur cette histoire qu'on pourrait relever sans tout dévoiler, bien sûr, on n'aura pas le temps, on ne peut pas bien sûr tout voir, mais est-ce qu'il y a un autre point que tu voudrais faire partager aux auditeurs?
Non, un point amusant. En mai 59, par exemple, la Tour Blanche est arrivée en quart de finale de Coupe de France.
Ouais.
Voilà, donc on a attendu ensuite de 59 à 2014. Donc en mai 59, la Tour Blanche a battu Tours 3-1 et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Voilà, à l'époque, quelques noms. Il y avait Alekhine de Nice qui s'est qualifié. Il y avait Toulouse, Peugeot. Le roi blanc Peugeot. Ouais. Voilà.
C'était parrainé par Peugeot, alors.
Voilà. Équipe d'entreprise.
D'accord. Voilà.
Et on a trouvé donc vraiment énormément d'informations. Tous les autres clubs, d'ailleurs, inopinément.
Oui, il y a forcément du coup des relations avec les autres clubs aussi. Donc ça doit intéresser normalement tous les clubs parisiens, même d'Île-de-France, puisqu'il y a des relations. Alors ce livre, il fait 58 pages, voilà, avec donc une grosse recherche historique dans les revues anciennes, dans l'histoire du club, dans les archives du club. Voilà, donc c'est une belle compilation qui est amenée sans doute à être augmentée, bah, peut-être tous les 10 ans, hein. On ne va pas faire ça tous les jours non plus. Mais voilà, donc c'est, en tout cas c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de clubs en France, ni même la fédération qui édite, même ne serait-ce qu'un historique de leur tournoi. On n'a pas les historiques des tournois des championnats de France, on n'a pas ce genre de choses. Il y a un site internet français fait par un historien, je crois que c'est un historien professionnel au sens où je crois, enfin il a dû être professeur d'histoire, en tout cas il fait ça en tout cas dans tous les cas avec extrêmement de sérieux, qui s'appelle Héritage des échecs français, et où il compile aussi beaucoup comme ça d'informations historiques, notamment et surtout sur les championnats. Et voilà, donc ça c'est une chose qui à mon avis est très importante, cette histoire de retracer le passé un petit peu, de garder les traces, et puis comme tu disais, parce que pour savoir où on va c'est bien aussi parfois de savoir d'où l'on vient, et je crois que vous avez fait ici avec ça un beau travail qui, à mon avis, est un exemple qu'il faut suivre. Et voilà, il ne faut pas oublier notre histoire de France, mais aussi notre histoire de club quand on a un club. Voilà, je crois que c'était important de relayer ce travail avec ce livret. Il y a des clubs plus anciens en France, mais on ne le sait pas parce qu'ils n'ont pas édité de livre. Donc, des échecs et des hommes. Tour Blanche, 1945-2015, on a donné quelques anecdotes amusantes et d'autres plus pittoresques. Voilà, histoire d'un club parisien, donc c'est sur le site de la Tour Blanche qu'on peut trouver les informations.
Alors effectivement, alors pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent m'envoyer un mail pour recevoir le livre. Donc bon, il faut bien qu'on essaie un petit peu de rentrer dans nos frais, donc on l'envoie pour 10 €... Port compris, et pour ceux qui n'ont ni l'envie, enfin, qui n'ont pas envie d'avoir forcément le livre, on mettra le livre en ligne, je pense, d'ici quelques mois ou quelques semaines, voilà.
Voilà, donc ce sera
aussi. Mais ceux qui sont attachés à l'objet livre, hein, c'est un bel ouvrage.
Bien sûr.
C'est une belle édition, enfin, c'est broché, c'est sympa. C'est en couleur, pour 10 €, voilà, vous pouvez vous le procurer.
Voilà, donc cette histoire de la Tour Blanche, voilà, donc fin de cette émission Fréquence Diagonale spéciale, donc 70 ans de la Tour Blanche avec l'édition d'un livre historique, hein, de ce club parisien qui fait partie des clubs parisiens qui comptent, avec une ambiance spéciale de joueurs qui jouent en pyjama. Merci Laurent Gagnepain, donc président de la Tour Blanche.
Merci Stéphane.
De nous avoir accompagnés dans cette émission spéciale donc Fréquence Diagonale. Merci de nous avoir suivis. Et puis donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Fréquence Diagonale. Et donc je vous laisse avec notre générique fétiche, Broken Embraces. Au revoir.